20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Une nouvelle Manon de Massenet à découvrir ces prochains jours à l'Opéra de Paris. La première Manon de Pretiende qui nous fera justement partager ce soir ses impressions, son enthousiasme. Ludovic Tézier, qui incarne ici Lescaut, et le metteur en scène de cette production, Vincent Huguet, nous raconteront également leur point de vue sur cet ouvrage et sur la psychologie de ces personnages dont on découvre ici toute la profondeur et la complexité. Mais avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale, et on commence justement avec l'Opéra de Paris et cette production de Manon, dont la première, tout comme la représentation d'Yvonne, princesse de Bourgogne, a été annulée samedi pour cause de grève. Suite à l'annonce du recours à l'article 49.3, la mobilisation contre la réforme des retraites a donc repris à l'Opéra de Paris. Certains de ses salariés ont même participé au happening de la Comédie française ce dimanche, place Colette. Les mesures de protection contre l'épidémie du coronavirus ont entraîné l'annulation de nombreuses manifestations et de nombreux concerts. Alors le monde du classique n'est pour le moment pas encore perturbé en France, dans la mesure où les restrictions concernent des salles de plus de 5000 places. Cette restriction est plus sévère en Suisse, où l'interdiction s'applique au-delà de 1000 places. C'est ainsi que l'Opéra de Zurich a par exemple limité son nombre de spectateurs à 900 ce week-end. Et puis en Italie, la Scala prolonge sa fermeture pour encore une semaine au moins. Quelques rendez-vous de concert justement à noter sur vos agendas. Des rendez-vous à Versailles, à l'Opéra Royal tout d'abord, où mercredi soir sera donné en version de concert l'opéra Sémiramis de Destouches, avec une très belle distribution, Éléonore Pancrazzi, Emmanuel de Négri et Mathias Vidal, accompagnés par l'ensemble Les Ombres de Margot Blanchard et Sylvain Sartre. Rendez-vous également à la Chapelle Royale vendredi soir pour des Vêpres imaginaires de Praetorius, qui seront interprétés par l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Du piano demain soir à la salle Gaveau avec Vadim Kolodenko, le virtuose russe révélé il y a 7 ans au concours Van Cliburn, sera donc en récital. Un récital qui associera Mozart, Schubert, Saariao, Rachmaninoff et Scriabine. Scriabine avec lequel ce jeune pianiste a déjà brillé au disque, témoignant d'un merveilleux sens des couleurs et d'une très grande poésie. Prélude de Scriabine sous les doigts de Vadim Kolodenko. Vadim Kolodenko qui jouera Scriabine, entre autres, demain soir à l'occasion de son récital à la salle Gaveau.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est donc mercredi que sera dévoilée la nouvelle production de Manon de Massenet à l'Opéra de Paris. Production d'autant plus attendue qu'elle réunit un trio de chanteurs qui avait fait sensation il y a quelques mois sur cette même scène dans la Traviata, à savoir Preti Yende, Benjamin Bernheim et Ludovic Tézier. Et un trio que l'on retrouve ici avec beaucoup de bonheur. Des chanteurs galvanisés par leur retrouvaille et par leur nouveau défi. Nouveau défi, nouvelle prise de rôle pour Preti Yende que j'ai pu rencontrer la semaine dernière à l'occasion de la Générale, juste avant sa dernière entrée sur scène, juste avant le début du quatrième acte. Chanter Manon, elle attendait cela avec impatience.
Oui, c'est un rêve. Un rêve qui devient réalité, car c'est un des rôles français que je préfère. Et c'est un rôle que je vais sans doute interpréter, ou du moins que j'aimerais interpréter encore longtemps. Et puis, pouvoir le chanter à Paris rend cette expérience très spéciale.
Qu'est-ce qui rend ce rôle si spécial pour vous? C'est le personnage de cette femme? C'est son écriture vocale?
C'est tout à la fois, la musique, l'histoire du personnage, sa manière d'appréhender le monde, ses ambitions aussi, rêver l'impossible et rendre possible ce qui précisément est impossible. Mais c'est aussi la possibilité que j'ai d'incarner un personnage qui s'inscrit dans l'histoire des grandes héroïnes françaises.
Y a-t-il quelque chose de la Traviata dans Manon, cette Traviata que vous avez chantée il y a quelques mois à Paris?
Eh bien, ce sont des femmes très différentes, mais elles partagent évidemment des caractéristiques communes. Mais elles restent fondamentalement très différentes.
Mais elles ont le même amoureux, Benjamin Bernheim.
Maybe.
Peut-être.
Mais pour le coup, Manon est en position de pouvoir. Elle n'est pas celle qui recherche à tout prix l'amour d'un homme, mais au contraire celle qui est désirée. Et c'est intéressant de considérer le personnage de cette façon.
Mais c'était, j'imagine, un plaisir particulier de chanter à nouveau avec Benjamin Bernheim.
C'est toujours un plaisir de chanter avec mes collègues, notamment avec Ludovic Tézier, qui faisait aussi partie du trio de Traviata. Et être à nouveau rassemblés contribue à rendre cette expérience exceptionnelle.
Combien ces femmes sont jolies, plus jeunes,
Preti Yende, capté il y a quelques jours à l'Opéra Bastille, à l'occasion de la Générale de cette nouvelle production de Manon, production mise en scène par Vincent Huguet. Alors justement, comment aborde-t-on un tel ouvrage si célèbre, si aimé du public? Est-on intimidé, exalté? C'est la première question que j'ai posée à Vincent Huguet à l'issue de cette Générale.
Un peu tout ça en même temps. La pression, je pense que c'est d'en donner une vision aujourd'hui, parce que justement, comme vous le dites, Manon, ça fait partie du patrimoine, et effectivement, le côté aussi populaire de la chose. Donc je pense que la difficulté, c'est d'essayer d'en donner une vision qui nous... sinon qui nous surprennent, qui nous ressaisissent aujourd'hui, mais en même temps qui trahissent pas l'œuvre, parce que Manon c'est un mythe aussi, c'est un mythe littéraire avant d'être un mythe musical, et il me semble qu'il y a des choses qu'on peut pas faire ou qu'on peut pas dire. Et moi la première chose qui m'a intéressée, c'est que j'ai jamais cru au fait que Manon c'était une simple coquette ou courtisane ou prostituée, parce que c'est très souvent ce qui a été fait dans des mises en scène de ces dernières années. Or je trouve que c'est, d'abord je trouve que c'est pas vrai, et puis surtout c'est pas intéressant parce que ça referme l'histoire si elle n'est que vénale. Or je pense que c'est un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus poétique, beaucoup plus attachant, beaucoup plus riche que ça.
Oui, puis c'est un personnage qui recherche le bonheur, mais qui ne trouve pas satisfaction dans l'argent, qui ne trouve pas satisfaction uniquement dans l'amour, qui ne trouve pas ce qu'elle veut. Finalement, il y a beaucoup de gravité, de mélancolie en elle.
Beaucoup, et ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que la mélancolie, c'est la première chose que moi j'ai recherchée dans l'œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et la mélancolie, je pense, arrive d'ailleurs de façon d'autant plus forte qu'il y a une apparente légèreté. Et oui, c'est effectivement l'histoire d'une insatisfaite, c'est-à-dire que c'est comme dans le film de Truffaut, c'est comme Fanny Ardant et Depardieu, ni avec toi, ni sans toi. C'est-à-dire que quand elle est avec lui, il lui manque quelque chose, et quand elle est sans lui, il lui manque follement. Donc c'est un couple comme ça qui est un peu maudit d'une certaine façon, parce qu'ils sont insatisfaits. Mais pour elle, la difficulté vient aussi du fait qu'elle doit choisir entre une ambition qui est grande, qui est vraiment de devenir la reine de Paris, qu'elle est au cours de la reine pendant son grand air de la gavotte, et cet amour innocent, romantique, d'un garçon qui l'aime, mais apparemment avec qui elle n'ira pas très très loin dans sa carrière si elle reste avec lui. Du coup, cette insatisfaction de Manon, je pense que si on la prend comme ça, on peut aussi, nous, la ressentir tout à fait, parce que c'est des choix qui sont assez universels, je veux dire, entre effectivement le cœur, la raison, l'ambition, la tendresse, comment on se débrouille avec tout ça.
Alors, c'est la première Manon de Preti Yende. Est-ce que le fait de travailler avec un personnage, avec une chanteuse qui ne l'a encore jamais incarnée, qui n'a pas encore de référence, est-ce qu'on peut aller quelque part encore plus loin?
Ah oui, je crois, surtout avec Preti Yende. Parce que Preti Yende, c'est une chanteuse extraordinaire, comme j'en ai vraiment peu rencontré, parce qu'elle est à la fois instinctive et cérébrale. Elle avait l'expérience de Traviata ici, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un lien fort entre Traviata et Manon, y compris historiquement. Et elle est arrivée avec une réflexion sur la femme, c'est-à-dire qu'on a cette Manon qu'elle fait sur scène, on l'a vraiment... je dirais découverte plutôt qu'inventée au cours de ces dernières semaines, et d'une façon parfois très surprenante, très émouvante aussi, parce que voilà, ces rapports, de cette espèce d'addiction aussi qu'elle a, ce rapport étrange qu'elle a avec les gens qui l'entourent. Bien sûr, c'est une chance extraordinaire que ce soit la première fois qu'elle incarne, et je pense qu'elle incarne une Manon à mon avis tout à fait exceptionnelle et originale.
Voilà, puis aux côtés d'un Benjamin Bernheim et d'un Ludovic Tézier, tout aussi bouleversant. Vous avez choisi, Vincent Huguet, l'univers des années 30. Pourquoi cet univers, tant sur le plan visuel d'ailleurs que sur le plan historique?
Parce qu'en fait, il me semble qu'on ne peut pas transposer tout à fait Manon aujourd'hui, parce que je crois que le monde de Manon est un monde disparu. Je crois qu'on n'en voit plus les jeunes femmes au couvent. Moi, il se trouve que je suis quelqu'un qui fait attention au livret, à ce qui est dit. J'ai cherché une équivalence à la Régence, qui est l'époque originelle où se déroule l'action de Manon. Et la Régence, c'est quoi? C'est un entre-deux. J'ai cherché cette période plus proche de nous, et il m'a semblé que l'entre-deux-guerres avait ce point commun avec la Régence d'être à la fois une époque où on enterre un monde et en même temps où on pressent un nouveau monde qui arrive. C'est des périodes très riches en liberté, en avant-garde, artistique, en création, mais c'est aussi des périodes lourdes de pressentiments. Donc il me semble que du coup, entre l'arrivée de Manon à l'acte 1, qui serait comme une espèce de libération, on sent qu'il y a une énergie nouvelle comme ça qui est donnée par le cœur, qui est extraordinaire ici. Et puis la fin où c'est comme l'ordre moral qui vient rattraper un peu cette femme, et c'est comme une sorte de parenthèse enchantée. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans cette époque, mis à part le fait que visuellement c'est une époque géniale pour l'architecture, les costumes, l'histoire de l'art, c'était aussi que je cherchais dans l'histoire des femmes un moment où des femmes pour la première fois deviennent indépendantes, ne sont plus de simples courtisanes, mais deviennent vraiment ces nouvelles reines de la nuit. Et donc j'ai été très inspiré par Gaby Delis, Miss Tinguette, Suzy Solidor et surtout Joséphine Baker, qui est un peu la muse qui a inspiré ce spectacle. Donc je trouvais intéressant de situer Manon parmi ces femmes-là.
Thank you.
Profitons bien de la jeunesse, chantait ici Pretty Yende, un nouvel extrait de La Générale de Manon, dans cette nouvelle production de l'Opéra de Paris. Pretty Yende, entouré ici de deux merveilleux complices, Benjamin Bernheim, bouleversant chevalier des Grieux, et Ludovic Tézier, qui irradie lui aussi dans le rôle de Lescaut. Un rôle que Ludovic Tézier avait chanté il y a une quinzaine d'années à Genève, mais qu'il n'avait pas repris depuis. Un rôle qu'il redécouvre avec bonheur, comme il me l'a confié.
C'est une reprise qui ressemble finalement à une prise de rôle, puisque ça a 15 ans, ça commence à faire un petit peu. Je n'ai jamais eu l'occasion de reprendre ce rôle, d'autant que dans la maison, c'était mon grand ami Franck Ferrari qui s'y collait merveilleusement. Et puis on m'a proposé donc de faire donc finalement ce rôle dans cette nouvelle production. J'ai été tout de suite d'accord parce qu'en fait j'adore Manon, j'adore Massenet. Et puis ça me donnait l'occasion de chanter en français, ce qui m'arrive rarement. Et de manière encore plus rare, sans tuer personne en scène, ce qui est quand même un moment très particulier dans la carrière. Donc je vous le dis, je ne tue personne. Ça change un petit peu quand même, voilà.
C'est vrai que votre personnage, il ne tue personne, mais en même temps, c'est un fanfaron, c'est un joueur, c'est un buveur. Il dit protéger Manon, mais il profite de la vie lui-même. Comment le percevez-vous, ce Lescaut ?
Lescaut, c'est un opportuniste. On pourrait se raconter une histoire qui emmènerait finalement au moment où ce personnage apparaît en scène. C'est quelqu'un qui a des besoins financiers, c'est un joueur, il est accro au jeu. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une fortune passée ou qui était peut-être enfant de bonne famille. Mais manifestement, pour maintenir un train de vie tel qu'il aimerait en tout cas, il a des gros besoins. Et l'argent est absolument central dans son histoire, si bien que lorsqu'il voit Manon, il décèle tout de suite les profits qu'il pourrait éventuellement en tirer. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il soit, j'en suis certain, attaché à cette jeune femme. Donc ça le rend opportuniste, ça le rend très très réactif, effectivement, à attraper le moindre courant d'air porteur. Et donc finalement, à jouer, c'est assez plaisant, parce qu'il faut être toujours un petit peu sur le qui-vive, guetter les situations, histoire de donner justement ce côté très en alerte du personnage.
Puis c'est un personnage qui en même temps a beaucoup de classe, très élégant, lorsqu'il est dans cette fête, au milieu de cette foule. Il y a aussi dans cette production le plaisir de jouer dans ces superbes décors.
Ah ben c'est très extraordinaire, parce qu'en plus de ça, c'est tellement bien fait que même de près, on y croit. C'est extrêmement judicieux comme choix d'époque et d'esthétique que ce choix qu'ont fait donc les décorateurs et Vincent Huguet, parce que c'est extrêmement français cette période-là. Il y a quelque chose d'infiniment français dans ce style, dans cette époque, d'infiniment décadent, et on se fond très bien là-dedans pour qu'il y ait des références sur cette époque. C'est vraiment très inspirant d'être en scène dans ces conditions-là.
Et puis vous retrouvez ici Ludovic Tézier, vous reconstituez ici le trio de la Traviata aux côtés de Benjamin Bernheim et de Pretty Yende. Se retrouver tous les trois, sachant qu'il y avait, en tout cas on avait senti déjà entre vous, une belle cohésion, une belle complicité. Quelque part, cela vous a donné une impulsion supplémentaire.
Vous savez, quand vous avez la chance, voire le privilège de travailler dans les conditions finalement qui ont été celles des répétitions de cette Manon, et en plus de partager la scène avec des collègues qui sont devenus des amis, c'est un plaisir. On n'a pas envie de sécher les cours, on vient en classe tous les jours, et en fait on construit les choses de manière assez forte, assez intime. On est forcément plus dans une idée, j'allais dire, sensible du jeu, plutôt que bêtement construite sur des relations un petit peu géographiques qu'on pourrait éventuellement construire en scène. On est vraiment sur une intimité. On échange, j'allais dire, des balles comme deux tennisman qui se connaissent et qui se font plaisir. On s'écoute aussi, on s'apprécie aussi artistiquement. C'est un plaisir de tous les instants.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous ne chantez pas si souvent que ça à l'opéra français. On vous a beaucoup entendu, entre autres, dans Verdi. Mais dans la musique de Massenet, il y a un côté italien aussi en même temps.
Ah, mais oui, un des tout premiers opéras de Puccini, Manon Lescaut, clairement, est la conséquence du Manon de Massenet, qui aura inspiré Puccini pour écrire son propre chef-d'œuvre. Il y a un lien évident dans la qualité mélodique, dans l'élan orchestral. C'est de la musique qui se chante vraiment, ça n'est pas du tout minaudant, c'est très varié, très moiré, ça bouge sans arrêt, c'est très très intéressant.
Et alors après cette production de Manon, de Massenet, vers quel répertoire allez-vous vous plonger, Ludovic Tézier ?
Je retourne à mon répertoire de prédilection en ce moment, puisque je vais rebondir après ça sur Verdi avec un Don Carlo à Munich et un bal masqué, aussi à Gênes et à Vienne. Donc on va retrouver les personnages extraordinaires de Baryton Verdi. Et puis, plus généralement, aller creuser un petit peu, peut-être, dans le répertoire de récital de Lied, j'aimerais mettre deux, trois choses au point. Enfin, voilà.
Alors, justement, parmi les projets, il y en a un qui a un peu fuité. On a appris que vous avez enregistré un album qu'on attend avec impatience. Ce sera votre premier album en solo, Ludovic Tézier. Est-ce que vous pouvez nous dire son programme, son contenu, éventuellement sa sortie, puisqu'il est très attendu, cet album?
Alors, pour ce qui est de la sortie, c'est encore un petit peu en l'air. On ne sait pas vraiment trop. Il y a évidemment des stratégies en jeu sur lesquelles je n'ai pas forcément grande maîtrise. Pour ce qui est du programme lui-même, c'est un secret qui sera rapidement inventé, mais on va dire que c'est ce fameux répertoire qui est le mien en ce moment, voilà, pour rester évasif mais assez précis, et italien plutôt. C'est un florilège d'air que j'affectionne, que j'ai pu donner pour certains en scène, ou la plupart en scène, et d'autres que je donnerai prochainement. C'était l'occasion de se retrouver en Italie, dans une ville magnifique à Bologne, avec une formation musicale remarquable, avec donc Frédéric Chasselin et l'orchestre. On a pu arriver à réellement faire de la musique, et faire cela, j'y tenais beaucoup, de longues prises. C'était d'ailleurs tout à fait exténuant, puisqu'on a eu des journées. Je crois que je n'ai jamais autant chanté de ma vie. Je crois que un certain jeudi, j'ai dû chanter entre 5 et 6 heures de chant, vraiment, et de chant lyrique italien. J'aime autant vous dire que ça consomme de l'énergie. Mais c'était très passionnant. Voilà, c'était essayer de donner une vision, peut-être prétentieux, mais en tout cas, on aura essayé une vision un petit peu dramatisée du chant au disque, que ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut entendre en scène. Voilà, est-ce qu'il y sera arrivé ou pas, ça, on verra bien à la sortie du disque. Mais c'était un projet assez passionnant à créer et assez passionnant à réaliser.
On a hâte de le découvrir. En attendant, on se réjouit de vous retrouver ici à l'Opéra de Paris dans ce rôle de Lescaut dans Manon de Massenet. Merci beaucoup, Ludovic Tézier.
Et merci beaucoup à vous.
Ludovic Tézier en Lescaut, capté ici lors de la générale de cette nouvelle production de Manon. Une nouvelle production de Manon à découvrir dès mercredi et jusqu'au 10 avril à l'Opéra Bastille, avec également Preti Yende et Benjamin Bernheim, sous la direction de Dan Ettinger et dans la mise en scène de Vincent Huguet. Une production d'une grande profondeur, de toute beauté, aussi captivante sur le plan visuel, dramatique que vocal.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Quelques notes de Mozart pour refermer ce journal du classique avec Jean-Efflam Bavouzé. Jean-Efflam Bavouzé qui poursuit son exploration des concertos pour piano de Mozart au disque avec la Manchester Camerata et Gabor Takács-Nagy. Un nouveau volume, le 5e, sorti chez Chandos, réunit des concertos de jeunesse associés à des ouvertures d'opéra. Parmi ces concertos, le 5e, qui est en fait le premier dans la mesure où les 4 précédents étaient des arrangements d'œuvres d'autres compositeurs. Et c'est le final de ce 5e que l'on écoute ce soir, servi avec tant de grâce et d'entrain par Jean-Efflam Bavouzé. Thank you.
Le final du 5e concerto pour piano de Mozart par Jean-Efflam Bavouzé et la Manchester Camerata sous la direction de Gábor Takács Nagy. Un extrait de ce nouvel album sorti chez Chandos, incluant également les 8e et 9e concertos, le 9e, le fameux Jeune homme. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons avec David Bobet qui signe la mise en scène d'une nouvelle Tosca à découvrir cette semaine à l'Opéra de Rouen. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Soirée que je vous invite bien entendu à prolonger à l'écoute de Radio Classique en compagnie de Francis Drezel.